Vous écoutez France Culture.
Sur les docks. La croisette à Cannes va, comment dit-on en parler journalistique, dans peu de temps briller de tous ses feux. Pendant cette époque, au creux de l'après-midi, toute la semaine, sur les docks, s'échangeront des marchandises d'une qualité discrète et troublante. Ce que notre personnage d'aujourd'hui, Nurit Aviv, propose au commerce des hommes, ce sont des mots, tout simplement. Nurit Aviv parle quatre langues. Elle est née à Tel Aviv, où on en parle bien davantage. Un simple mot peut, dit-elle, suffire à déclencher une émotion, une réflexion. Dans un certain paysage, un certain voisinage, un mot prend un sens. Dans un autre, il change de sens. Pour un oui ou pour un non, dirait Nathalie Sarraute, tout peut basculer. Pareillement, ajoute Nurit Aviv, pour un mot. Et si, lui demande Joseph Confavreux, on trouvait une méthode, ensemble, pour filmer les mots et les langues.
Mein Vater ist hier in Berlin geboren. Auch sein Vater, sein Großvater, seine Urgroßmutter sind hier geboren. Ich bin in Tel Aviv geboren. Berlin ist mir fremd.
Passeur de réel, Nurit Aviv.
Mein Vater ist 1938 nach Palästina geflüchtet. Seine Eltern flohen 1940 nach Südafrika.
Quelle est ma langue maternelle ? Je ne sais pas répondre. Est-ce la langue de la maison ? La langue de mes premiers mots ? Ou l'autre langue ? Celle de la rue, de l'école ? La langue que j'ai appris à lire et à écrire. Je suis née à la fin de la Seconde Guerre mondiale à Tel Aviv, la première ville hébraïque. De ses sables, espérait-on, surgirait un homme nouveau, parlant, pensant et rêvant seulement en hébreu. Mes parents m'ont donné un nom nouveau, une fleur sauvage, qui fleurit à mon anniversaire,
Nurit.
Mes parents ne savaient pas que Nour et Nourri sont des noms arabes courants qui signifient « lumière » et « ma lumière ». Beaucoup d'amis portaient des noms hébreux nouveaux, des noms d'ici, pas des noms juifs de l'exil. Leurs parents s'efforçaient de parler hébreu chez eux, mais un hébreu teinté d'accent, souvent pauvre et approximatif. D'autres parents parlaient polonais, russe, arabe, judéo-espagnol, yiddish. S'ils parlaient un hébreu correct, ils étaient professeurs. Du moins, je le croyais. Chez moi, on parlait allemand. En allemand, mon père me lisait des contes effrayants. En allemand, ma mère me disait qu'on avait assassiné sa mère. Avec le médecin, les amis, les marchands de la rue Ben Yehuda, ma mère parlait aussi allemand. Rue Ben Yehuda était mon jardin d'enfant. Mais ma mère ne savait pas qui était Eliezer Ben Yehuda, considéré comme le rénovateur de l'hébreu.
Sans le savoir toujours, vous connaissez les images que tourne Nourrit Aviv. Le film, qui a obtenu le dernier César du meilleur documentaire, Les plages d'Agnès, en contient de nombreuses, puisque Nourrit Aviv a travaillé comme chef opératrice avec Agnès Varda, mais aussi avec Amos Gitaï, en commençant par Journal de campagne, avec René Alliot sur Moi, Pierre Rivière, ou encore avec Bertrand Van Effanter sur Erika Minor. Depuis quelques années, Nourrit Aviv réalise aussi ses propres films, parmi lesquels notamment Makom Avoda en 98, Circoncision en 2000, Fatersland en 2002, D'une langue à l'autre en 2004, ou encore l'année dernière, Langue sacrée, langue parlée. Nourrit Aviv est une portraitiste errante, entre chef opératrice et réalisatrice, entre la France et Israël, entre le cinéma et la photographie, entre la fiction, le documentaire et le film expérimental. Elle se situe aussi entre la salle de cinéma, la télévision et le musée, puisque la première grande rétrospective de son travail documentaire a eu lieu au Jeu de Paume en septembre 2008. Si Nourrit Aviv parle quatre langues, elle parle donc d'encore plus nombreux langages cinématographiques, sur lesquels elle opère un travail de traductrice, quand elle fait d'un scénario des images, ou un travail de documentariste, lorsqu'elle se met à filmer la langue. Il faudrait ajouter que Nourrit Aviv, en touchant de près à la langue, reste rarement éloignée de la littérature. Le 4 mai dernier, elle a ainsi reçu le prix Édouard Glisson, remis pour la première fois à un cinéaste. Le Tout Monde, célèbre ouvrage du poète martiniquais, serait d'ailleurs une belle manière de nommer le travail de Nourrit Aviv. Sur son avant-dernier film, D'une langue à l'autre, Misafa Lesafa en hébreu, c'est l'ancien assistant de Nourrit Aviv, Philippe Belaïch, qui tient la caméra. Avec beaucoup de talent, mais sans doute aussi au départ un petit peu d'appréhension.
Quand on travaille avec un réalisateur qui a été chef opérateur, on est son bras plus que son œil. On est un opérateur, on n'est pas vraiment un chef opérateur. Même quand j'étais son assistant, elle était extrêmement attentive à ce que je pouvais lui dire sur mes impressions. Souvent, elle même si c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, elle demande toujours l'impression des gens qui sont autour d'elle. Et donc, évidemment, dans le travail dans une langue à l'autre, on a choisi ensemble les lieux, les plans, etc. Mais tout ça avec beaucoup d'humilité, en étant plus l'opérateur que le chef opérateur.
Qu'il y a, Philippe Belaïch, un style Nourrit Aviv?
Ce que j'ai d'abord appris avec Nourrit, c'est l'importance du cadre, c'est-à-dire l'importance de la composition. Dans n'importe quel tournage, la composition, elle est définie par la place de la caméra, et c'est évidemment ce que fait n'importe quel opérateur. Nourrit est extrêmement rapide dans la manière dont elle travaille, à trouver la place optimale et la hauteur optimale de la caméra, ce qui va déterminer le cadre. Et si vous remarquez les films qu'elle a fait quand elle était chef opérateur ou les films qu'elle fait en étant réalisatrice, les cadres sont extrêmement bien construits, extrêmement beaux. En étant classique, sans être pour autant conventionnel, c'est aussi un des traits de son travail, elle est absolument pas conventionnelle, et pourtant il y a un classicisme dans son travail. Ça, c'est une première chose. Maintenant, si on veut parler d'un style Nourrit Aviv, je pense que là où on le retrouve le mieux, c'est quand la caméra bouge, c'est dans les panoramiques. Les mouvements de caméra de Nourrit, enfin, les panoramiques d'observation de Nourrit ressemblent à ce que fait l'œil quand il regarde un paysage. Dans son travail d'opérateur, là où immédiatement je reconnais la qualité du travail de la caméra, c'est quand il y a un panoramique. Il y a une précision et en même temps une souplesse dans le regard de cette caméra. Une caméra qui caresse, en fait. C'est une caméra qui caresse ce qu'elle voit. Une caméra qui cherche, qui ne part pas d'un point A pour arriver à un point B, mais qui part d'un point A et arrive à un point B parce que c'est là que ce qui était devant la caméra lui vous fait arriver.
Au-delà du fait que Nourrit, le prénom Nourrit, ça évoque la lumière, Nour, la lumière en arabe. Qu'est-ce que vous, comme ancien assistant de Nourrit Aviv, aujourd'hui chef opérateur, et notamment chef opérateur de certains de ces films comme D'une langue à l'autre, vous retenez de cette lumière et comment vous la définiriez au-delà de ça, Philippe Belaïch?
Nourrit recherche une lumière naturelle. Évidemment, une lumière naturelle, elle est pas... Enfin, il faut parfois la construire, mais en particulier en situation d'interview. Donc il peut y avoir énormément de projecteurs et de diffuseurs et tout un appareillage qui va couper la lumière, etc. Mais le résultat cherché, c'est le contraire d'une image éclairée.
Un des thèmes de prédilection de Nourrit Aviv, c'est la transmission. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis ?
Il n'y a pas un jour, aujourd'hui je suis chef opérateur et je travaille beaucoup en documentaire, il n'y a quasiment pas un jour de tournage où je ne me souviens pas d'une parole de Nourrit, de l'époque où j'étais assistant. Nourrit a une énorme ouverture sur le réel, alors que c'est quelqu'un de très précis et qui a beaucoup de rigueur dans la manière dont elle filme. Elle a aussi une ouverture totale sur le réel. C'est-à-dire que même si les scènes sont prévues par le réalisateur, Nourrit arrive à être surprise par ce qui arrive. Et elle le met parfaitement bien dans le cadre. Nourrit m'a souvent dit qu'un opérateur doit avoir des bonnes oreilles. En fait, qu'un opérateur doit tourner à l'oreille. En documentaire, elle a absolument raison. C'est-à-dire qu'il faut toujours être à l'écoute de ce qui... À l'écoute, pas simplement à l'écoute de ce qui se... Pas simplement regarder ce qui se passe, mais aussi écouter ce qui se passe dans le hors-champ pour savoir où amener sa caméra. Et même si le travail d'un opérateur est celui de l'image, pour se remplir du réel, on doit écouter.
Comment elle est pendant un tournage ?
Nourrit, pendant un tournage, est très nerveuse, très très concentrée. Elle a énormément d'énergie, elle est la première levée, la dernière couchée. Elle a une concentration du début jusqu'à la fin de la journée.
C'est quoi ses défauts, Philippe Belaïch ?
Je pense que je viens de les dire. Elle est énormément concentrée.
Ça, comme ça, c'est pas un défaut. Ouais. Ça fait entretien de... Ah ouais, mon plus grand défaut, c'est la curiosité. Ça fait entretien d'embauche, ça. Dites-moi les vrais défauts.
Non, je pense que c'est... C'est un défaut pour... Peut-être pour les gens qui travaillent avec elle. C'est parfois les phases obsessionnelles dans lesquelles elle rentre pendant le travail. Est-ce que c'est un défaut quant à l'œuvre au bout du compte ? C'est à vous de juger par la qualité. Parfois, pendant les tournages, elle rentre dans des phases obsessionnelles qui sont difficiles, mais qui sont difficiles le temps du tournage.
22 otiyot yasod hagukot bakol hatsuvot baruach kvuot bape בחמישה מקומות. בגרון, בחך, בלשון, בשיניים, בשפתיים. 22 אותיות שקשר בלשונו, וגילה את סודו, משכן במים, דלקן באש, רעשן ברוח, בערן בשבעה, נהגן בשנים עשר מזלות. 22 אותיות, חקקן חצבן שקלן המירן צרפן צר בהם. נפש כל יצור, וכל העתיד לצור. 22 אותיות יסוד, שלוש אמות, שלוש אמות, שבע כפולות, שבע כפולות, 12 פשוטות, 12 פשוטות, שלוש אמות, א' מ' ש', אמות, א' מ' ש', מם דוממת שין שורקת א', חוק מכריע בינתיים, שלוש אמות שהם שלוש אבות, מהם יצא אש רוח מים, שבע כפולות, שבע כפולות, ב Bet fet gimel gimel dalet dalet kaf raf pei fei resh resh taf taf sheva kefulot sheva velo shesh sheva kefulot sheva velo shmone shte enayim shte אוזניים, שתי נקבי האף והפה, צבע חשוב, מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע על לוע.
Le dernier film de Nourrit Aviv, sorti l'année dernière, Langue sacrée, langue parlée, dont on vient d'entendre un extrait, évoque dans ses premières minutes trois figures. Alexandre Promio, opérateur des Frères Lumière envoyé en 1897 filmer la Terre Sainte, puis Théodore Herzl et Sigmund Freud. Ce prologue nous mène ensuite à une réflexion poétique sur le rapport entre l'hébreu et les hébreux, entre la langue de la Bible et la langue d'Israël. Et c'est une autre poète, Hélène Tixou, qui nous aide à mieux le regarder.
Il y a une poétique du film. Une sorte, ce que j'appellerais moi, parce qu'il y a une écriture justement. Alors il y a une mise en syntaxe qui est ce rythme aussi. Et c'est d'ailleurs le rythme même du train. Mouvement, mouvement, arrêt. Mouvement, mouvement, arrêt. Du discours, de la pensée, le mouvement, exactement, de manière performative, c'est une fiction. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que, en fait, nous sommes, grâce justement au travail filmique qu'elle a fait, nous sommes dans le train, mais nous ne le savons pas. Et pourquoi est-ce que je peux dire que nous sommes dans le train? Parce que nous sommes assis dans nos fauteuils, nous ne bougeons pas, et le paysage défile. Mais le paysage qui défile, c'est une fiction. En fait, c'est le train qui bouge, le paysage est immobile. Ça, c'est exactement aussi la métaphore de ce qui se fait de l'hébreu avec l'hébreu. Donc, un travail sur le point de vue qui est extraordinaire. Même le mouvement de la langue en elle-même est dans le mystère de l'abîme qu'elle est. Ça, c'est l'illustration même de ce que peuvent dire les philosophes. Tout est en décalage. Il y a une chose que je trouve absolument extraordinaire et que j'adore, je dirais que c'est le coup de la chaise. L'art de la chaise est extraordinaire. Pourquoi? Parce que si vous regardez la structure théâtrale, c'est très théâtral. Hein. En même temps, ça a les moyens, bien sûr, du cinéma. Alors la structure, c'est par exemple que on entend la voix. La voix n'est pas dans le corps. Donc d'abord la voix, donc d'abord la langue. Et c'est vrai, c'est d'abord la langue. Ensuite, la chaise. Bon, chacun sa chaise, hein. C'est-à-dire chacun son chez-soi, mais tout petit, hein. Voilà. Chacun, d'ailleurs, une autre chaise. Hein. Et je me suis dit, mais ça, c'est l'analyse. Hein. Chacun vient avec sa chaise ou son divan. Voilà. Et puis, la langue entre dans la personne, hein, qui est là, et qui tout d'un coup est animée, et hop, le train de la langue traverse le personnage. C'est fait de manière admirable. Je suis sûre que ça a dû demander un énorme travail parce que on ne peut pas prendre les personnes, en faire des marionnettes et leur dire voilà. Enfin, on ne peut pas. Il ne peut pas y avoir de metteur en scène qui dicte. Donc, je pense que c'est vraiment qu'il a dû se passer un échange d'intuition, justement de l'ordre du souffle, de l'inspiration, qui a produit des sortes de scènes d'une perfection et d'un rythme extraordinaire, avec une harmonie intérieure tout à fait extraordinaire. Donc, cette dynamique, elle est très organisée, elle est très dessinée. Alors que chaque fois qu'on parle de la langue, par contre, on est dans le tumulte. On est dans l'incertitude, on est dans le renversement.
Mimitan yodei vrit bemidam aspeket. כדי לבקש בשפה זו כרטיס רכבת. כתב הרצל שנה קודם לכן, בספרו מדינת היהודים. הוא הציע שבמדינה העתידית, כל אחד יחזיק בשפתו, שהרי השפה היא מולדתן היקרה של מחשבותו.
Comment définir l'émotion et la conséquence de cette émotion? D'abord, le prologue, je l'ai adoré. Je pense que vous aussi. C'est ce prologue extraordinaire qui est un après-coup, c'est-à-dire qu'il est certain que Herzl, que Freud et que l'épisode d'Alexandre Promio ne sont pas concertés. Et pourtant, ça fait un concert. C'est-à-dire que, enfin, ils ne se sont pas concertés à l'époque. Et pourtant, ils s'entendaient ou se voyaient les uns les autres. Tous tournaient donc vers cette Palestine agitée, avec cet extraordinaire congrès de Herzl, où, donc en allemand, le premier grand congrès, où il est question justement d'un billet de train, de comment l'acheter, est-ce qu'on va l'acheter en allemand, en russe, en yiddish, en bulgare, etc. Bon. Cependant que les frères Lumière, et comment ne pas penser quand même que le signifiant de Lumière joue ? Et je le dis de manière plaisante, mais comme vous le savez, chez les Juifs, le nom a des pouvoirs. Ce que même Orly Castelblum, qui ne croit en rien, est obligé de croire. Et donc les frères Lumière envoient Alexandre Promio faire le film de Norit un peu plus d'un siècle avant, par anticipation. Parce que c'est le même. Et là, j'ai trouvé ça bouleversant, à la fois parce qu'on pouvait considérer que c'est un truc cinématographique, c'est-à-dire que ce film d'Alexandre Promio est bouleversant. On se dit, mon Dieu, mais c'était ça la Terre promise. Ces rails, ces falaises. On ne sait pas si vous avez lu Jérusalem en Dali Carli, mais c'est la même chose. Donc on arrive, et voilà la Terre promise. Elle est aride, et en même temps, elle a une beauté picturale avec ces arbres qui sont comme des êtres humains, soit transformés, soit en arbres, soit inversement, c'est-à-dire qui attendent leur métamorphose. Et ce sont exactement les mêmes qui réapparaissent, donc 101 ou 102 ans après, sous la plume de Norit, et on refait exactement le même voyage, comme si justement quelque chose nous disait « attention, éternité ». Ce prologue est absolument magnifique. Que le film de 1897 soit le même, c'est-à-dire rien n'a changé, tout a changé.
Sha'ar asher nisgar kuma petahehu utsmi asher barah elai שלחהו ליום בוח עדיי להלין בבן שדיי שמרי חך הטוב עליי תניחהו מה זה דמות דודך, קלה יפרפיה, כי תאמרי אליי, שלחה וקחהו. ההוא יפה עין, אדום וטוב רואי, רעי ודודי זה, ומה משחהו.
Est-ce qu'on commence par le début ou par la fin, Norit Aviv?
Par le début.
Combien de débuts?
Les débuts, justement. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de commencements, donc... Je ne sais pas de quel commencement, mais vraiment, je crois qu'il y a comme ça une succession de commencements dans ma vie. Bien que je fais toujours la même chose, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout jamais fait autre chose que prendre des images, ou les images après à s'ajouter les sons, ce qui était important. Mais j'ai commencé à l'âge de, je ne sais pas quel âge, mon père était photographe et... photographe de presse, et je sais que lui, il prenait des photos et... Et moi, petite, à 4-5 ans aussi, et après, j'étais une sorte d'assistante de mon père. J'accompagnais mon père quand il allait vendre ses photos. Alors, on allait dans un journal, on vendait ses photos. Après, il y avait en face le même journal, mais pour enfants. Et on donnait les miens. Donc, pour moi, c'était normal. Quand je prends des photos, à l'époque, pas tout le monde était avec. Quand on prend une photo, elle est publiée. Et bon, celle de mon père chez les grands et chez la mienne chez les petits. Et j'imagine, vraiment, c'est bien, imaginez à l'époque, bon, ça fait quand même longtemps, hein, je ne vous dis pas combien, mais vraiment quelques bonnes dizaines d'années qu'un homme amène sa fille, qui a 4-5 ans avec lui, il amène sur sa moto derrière, et bon, on y va. Bon.
Donc ça, c'est un début.
Il y a les débuts aussi dans l'école de cinéma en France, dans les années 60, avant 68, hein, et où je suis la seule à être en prise de vue, où le directeur essaye de me dissuader d'être en prise de vue parce que les filles, c'est pas pour les filles. Et je crois qu'il m'a laissé finalement ce vieux homme, presque par mépris. Si vous voulez perdre votre temps, faites-le. Et de toute façon, vous ne jamais faire ce métier. Et en plus, à l'époque, il fallait signer qu'on ne va pas travailler en France. Donc, étranger qu'on était. Et on n'allait pas travailler en France pendant 12 ans, je ne sais pas quoi. Donc, de toute façon, si vous voulez perdre votre temps. Je crois que si j'étais française, il ne m'aurait pas laissé. Donc, j'ai l'impression que c'était un peu par mépris. Et puis après, heureusement, il y avait 68. Et les choses ont changé. Après, donc, je suis rentrée en Israël. Et là, il y a encore un nouveau début avec un film, qui est mon premier long-métrage à l'image, et qui s'appelle Chabloul, l'escargot. C'est marrant parce que l'escargot, c'est celui qui porte la maison avec lui. Donc, portant ma maison avec moi, je reviens à un moment, je ne sais pas, je reviens en France. Donc, je suis passée par Paris à un moment. J'ai rencontré Bertrand, qui était un ami de l'IDEC, avec qui on a fait des films déjà à l'IDEC. Et il m'a signé sur les papiers du sucre.
Emballer le sucre.
Emballer les sucres. Il m'a signé un contrat sur lequel c'était écrit que quand il va faire son premier film, c'est moi qui vais faire l'image. Et un an plus tard, il m'a téléphoné en Israël. Et il m'a dit qu'il faut que je vienne. Et voilà que je fais mon premier film avec un réalisateur français en France. C'était donc Eric Aminor, qui après qui était le premier film qui est passé à Cannes. Je crois que après on commence à me connaître comme la première chef opératrice en France, c'est-à-dire que par des voies très étranges et pas typiques du tout, je reçois la carte de chef opératrice, donc la première femme en France de l'avoir. Et voilà, là, à partir de là commence une... Je crois que là, voilà, les débuts sont un peu finis, oui. Après, je fais des films dans le monde. Bon, je suis un peu l'opérateur, le chef opératrice, et errante. Hein.
Et les lumières, elles sont très différentes dans tous ces pays.
Oui, les lumières sont différentes, les réalisateurs sont différents. Oui, oui, ils sont différents. Mais c'est toujours à partir de la même peinture que je m'inspire. Bon, la peinture classique... Vermeer en premier pour la lumière de jour.
Est-ce qu'on peut dire que votre trajet d'un travail de chef opératrice vers un travail de réalisatrice, notamment de films documentaires, c'est aussi en quelque sorte un trajet de la peinture vers la littérature ?
Non, parce que je veux dire, je crois pas, parce que justement j'essaye que ça soit pictural. Cette littérature, non, j'ai au contraire, je crois que c'est les défis de mettre en scène la parole dans une filiation picturale qui fait référence vraiment à la peinture. Mais pour moi, dans la peinture, je reviens à Vermeer, dans la tradition de la peinture de portrait, mais pour moi, vraiment, la question, c'est comment je le filme en portrait. Et la lumière, vraiment, c'est une lumière qui vient d'une fenêtre, souvent à gauche, comme chez Vermeer, et qui a cette lumière-là. Et vraiment, vraiment, avant de faire le film, c'est au Louvre que je me suis promenée. De re-regarder comment le peintre filme le film. Comment le peintre filme, comment le peintre peint. Quelle est la position de corps par rapport au peintre, vous voyez, c'est-à-dire, est-ce qu'on est en face, est-ce qu'on bouge un peu? La chaise, si elle est là, vide, elle est déjà inclinée dans la manière où l'autre va s'asseoir dedans. Hein, mais où on a cherché avant. Comment il va se mettre dans cette chaise. Quelle taille ? Et vraiment, je peux vous dire que vraiment, vraiment, c'était ça. Mon vrai souci, c'est pictural. Comment je vais pouvoir faire ces portraits ?
Dieu dit à Abraham, « Vous ferez circoncire la chair de votre prépuce, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. À 8 jours, tout mâle sera circoncis, de génération en génération. » La Genèse. Elle enfanta son fils premier-né. Et lorsque furent accomplis les 8 jours pour sa circoncision, il fut appelé du nom de Jésus. Saint Luc. Puisque le prix a été payé pour tous par la souffrance du Christ, il n'y a plus besoin que chaque individu verse son sang par la circoncision. Saint Ambroise.
Comment vous décidez de passer à une réalisation de film documentaire ? Parce que finalement, ça vient assez tard. Là, on parlait des nombreux débuts. Il y a eu pas mal de suites. Quand et pourquoi ?
Je dois dire que je n'ai pas du tout choisi. Ce n'était pas du tout une idée, mais pas du tout que j'ai faite. C'est vraiment un peu par hasard. Et ce n'est pas aussi tard que ça, parce que ça fait quand même 20 ans. Et il se trouve que ça fait quand même 20 ans, mais oui, au début, il y avait un film que Eglal Herrera m'a proposé de faire dans un village palestinien en Israël, qui s'appelle Kafar Kara Israël, et qu'on a fait ensemble. Après, on me propose de faire un film sur le Parlement européen, et j'ai dit oui, mais je continue à être... la chef opératrice. Et au début, je garde un peu timidement le film, c'est un peu un understatement. J'en parle pas trop parce que je crains que les réalisateurs, s'ils savent que je réalise, ils vont pas vouloir me prendre comme chef opératrice. Donc au début, je parle pas beaucoup de mes films. Je les fais tranquillement, mais je les garde un peu presque pas cachés. Ils passent à la télé, ils sont là, mais... Je crois que c'est avec circoncision, donc on est tard, comme vous dites, on est dans l'année 2000, et qui va ouvrir tout un travail que je fais depuis, je dirais, sur la transmission et la perte. Hein. Et beaucoup tourné autour de la parole, c'est-à-dire, c'est moi qui viens de l'image, c'est comme si c'est les défis de comment je tourne la parole et comment je fais autrement de ce que je fais avant. Donc il y a un dispositif comme ça qui se met lentement en place, qui est de plus en plus... où il n'y a que la parole, hein, presque. Presque la parole, mais c'est toujours... Bon, je tourne toujours autour, même avec circoncision, c'est toujours autour de la langue, du langage. Je crois que, comme quelqu'un qui vient de l'image, bon, c'est comment filmer la parole, mais comment faire un film où... ou qui s'occupe de langage cinématographique. Voilà, c'est un peu cette chose-là qui se met en place. Mais quand je pense aux films précédents, déjà, ils tournaient tous autour de la langue. C'est-à-dire que, évidemment, le Parlement européen, mais aussi dans Makomavoda, un lieu, un travail, il y a 3 communautés, c'est-à-dire qu'ils parlent le thaïlandais, l'arabe, l'hébreu, donc c'est déjà un film en 3 langues. Et évidemment, le premier, là, d'Kafar Kara, il y a déjà l'histoire de 2 langues, hein, c'est-à-dire le rapport, c'est des Palestiniens vivant, qui sont citoyens d'Israël, et la question de la langue se pose déjà, donc elle est toujours là. Et circoncision, on dirait que ça n'a rien à voir avec la langue. Les mots circoncision en hébreu, c'est dit mila, et mila, c'est les mots. Donc les mots circoncision en hébreu est les mêmes pour dire la circoncision et les mots. Hein. Je ne suis pas la première à les découvrir, Derrida en parle déjà avant, hein, dans son texte qui s'appelle Circonfession. Donc on voit les mots mila, qui veut dire donc circoncision, mais qui veut dire les mots. Donc, malgré l'apparence, on est dans le mot. Et je peux vous dire que je suis tellement dans le mot qu'hier, j'étais avec une copine, je lui demande si elle veut du citron dans sa soupe. Et c'est, bon, citron, c'est dit limone. Et je me trompe et je dis milone. Et milone, c'est le dictionnaire, et mila, c'est le mot. Hein? Donc même à travers un citron que je peux proposer, le mot ressort, hein? Parce qu'au lieu de dire limone, je dis milone. Et on était hier, donc je lui proposais, est-ce qu'elle veut un peu des dictionnaires dans sa soupe? Est-ce qu'elle veut un mot dans sa soupe, non? Et comme quoi, je suis un peu obsédée.
Avant la naissance d'Itamar, mon premier enfant, je me suis vraiment posé la question, le circoncire ou non. Je suis juif, mais pas religieux. Donc, pourquoi décider de marquer dans sa chair un enfant ? Mais la question me travaillait vraiment, et surtout, je sentais qu'il y avait urgence à prendre une décision avant sa naissance. On en a parlé avec Anna, et pour elle, la réponse était évidente. Elle m'a dit, mais comment, mon grand-père, mon père, mon frère, mes enfants? Sa réponse m'a en quelque sorte soulagée, et j'ai compris à ce moment-là que je ne trouverais pas de bonne raison pour faire cet acte, que cet acte est irrationnel. Et c'est comme ça que je l'ai pris, et à ce moment-là, j'ai envisagé la cérémonie comme une grande fête païenne. Les gens boiraient, chanteraient, deviendraient ivres. La chose étant décidée, il fallait l'organiser. Et à ce moment-là, j'ai compris que commençait mon rôle de père, et pas uniquement celui de géniteur. Pendant toute la grossesse, j'ai vu la fusion parfaite entre le fœtus et sa mère. Même à l'hôpital, au moment de l'accouchement, c'est la maternité, c'est là où la mère devient mère, où la femme devient mère. Il n'y a pas encore de place pour le père. Au moment, le jour de la cérémonie, j'ai vu comme on arrachait littéralement l'enfant des bras de sa mère. Et à ce moment, je comprends que cet acte est une manière de signifier à la mère et à l'enfant que cet enfant a une existence à part de sa mère, qu'il a une existence propre. Et cette coupure, c'est comme une coupure de la relation fusionnelle qui s'est poursuivi après la naissance, pendant les 8 jours qui ont précédé la cérémonie.
Donc il y avait celui-là, après il y avait Vatersland. Donc 6 circoncisions, c'est un film en français et en anglais. Donc, hein. Et vient après Vatersland, qui est un film en allemand. C'est un film que je fais à Berlin, en Allemagne, qui est le pays de mon père et de son père et son père à lui, et que de quel il a été chassé, et que bon, sa langue, il n'était pas chassé vraiment de sa langue, parce que ma mère tchèque, bon, c'était ma première langue, et que je devais faire avec ça. Que ma première langue, c'est l'allemand que je parle, qu'on me parle en Israël. Voilà, donc il y a ce film Perte que je fais, qu'un plan séquence. Je continue toujours avec mes plans longs que j'ai déjà essayé de convaincre les réalisateurs ou d'utiliser dans le film d'avant. parce que je les aime beaucoup, et dans la fiction et dans le documentaire. Si un réalisateur veut bien, je suis ravie, sinon on fait comme il veut, mais bon. Et là, c'est un plan de 30 minutes du train qui va de l'est à l'ouest.
Ich möchte eine intellektuelle Geschichte anrühren. Mit Freunden in Deutschland über leeren Raum, Verlust, Ideal und so weiter sprechen.
Sur ce que vous disiez, Norita Vive, de la manière de filmer la parole, entre ce film Vatersland, perte en français, d'une langue à l'autre, et langue sacrée, langue parlée, il y a quand même un point commun, on peut dire, c'est que les personnes qui parlent, l'image est très fixe. Et puis, alors de manière différente, parce que dans Vatersland, c'est en fond, alors que dans d'une langue à l'autre et langue sacrée, langue parlée, ça vient entre les séquences de paroles, on a des travelling. Mmh. Il faut prendre ces alternances entre vraiment un mouvement et un plan fixe comme une métaphore, notamment de ces langues à la fois très enracinées, très instables. Enfin, c'est quoi le rapport entre le dispositif mis en place et ce que vous dites de la langue?
Je ne sais pas, c'est plutôt, c'est moins métaphorique, c'est beaucoup pour moi, mais c'est, après ça les devient, mais c'est plus trouver un rythme très construit au départ, c'est-à-dire c'est un mouvement, un arrêt, un mouvement, un arrêt, un mouvement, un arrêt. Et que le mouvement, là où il y a l'arrêt qui est la parole, le mouvement, elle est dans la parole elle-même. Et que je veux vraiment laisser la personne dans sa situation. J'ai pas besoin de bouger. Je choisis un cadre, et je crois que c'est le meilleur, pour elle, et j'ai aucune raison de le changer. Parce que le mouvement, il va venir par la parole elle-même. Et c'est un mouvement très, très fort. C'est des petites constructions où chacun, ensemble, avant le tournage, on réfléchit à une petite construction qu'il va faire. Ce n'est pas des questions-réponses. C'est plus... ils sont un peu les acteurs de leur propre histoire par rapport à... c'est des variations sur le même sujet, c'est-à-dire qu'il y a une question un peu posée à tous avec laquelle chacun va faire... son cheminement. Hein. Dans le premier film, D'une langue à l'autre, c'est des gens dont la langue intime, la langue de la maison, la langue qu'on appelle maternelle, disons. C'est pas l'hébreu et qu'ils écrivent en hébreu. Et c'est la tension entre ces deux langues dont on parle d'une langue à l'autre. Hein. Donc on est dans un mouvement vraiment très 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 fort, d'une langue à une autre. Hein. Et c'est ça qui est le premier film.
Et vous pouvez nous en dire plus quand même sur ce dispositif, évidemment vous préparez avant, avec les gens qui jouent aussi leur propre histoire, mais comment vous les choisissez, ces personnages, personnes, comment vous organisez, ça se fait au montage, vous savez déjà, puisque effectivement c'est quand même une déclinaison autour de thèmes qui touchent à la langue, à la transmission, c'est l'organisation, parce qu'ils se répondent tout en se décalant, tout en se répondant pas, tout en se... Comment vous travaillez ?
Peut-être que c'est un peu comme une pièce de théâtre. Il y a des acteurs, on fait un casting, on choisit les meilleurs. Et après, on les met... Il y a une scène, on allume la lumière sur l'un, après on éteint, on allume sur l'autre, on allume, bon, sur l'autre. Et, sauf que ce n'est pas une scène théâtrale, c'est une scène qui est la bande du film, hein. Qui, bon, je voulais pas, je peux plus dire pellicule malheureusement parce qu'on est le plus souvent en vidéo, mais c'est-à-dire qu'il se rencontre, c'est un peu une sorte de chœur polyphonique, mais vous savez qu'après, c'est-à-dire c'est maintenant, là, la musique, on fait ça très souvent, il y a un qui chante, l'autre qui chante, et après on va les mettre en studio ensemble. Donc, mais avec une sorte de chose qu'on a... comme un metteur en scène de théâtre ou comme un compositeur qui sait les éléments qu'il a, qui va composer ça après, ensemble.
Al-Uf Mashal, Uf Mashal, Ni, Manit Ballit, Uhu, Ille, تبلاني على القوف مشعل قوف مشعلاني ما نتبلته هو اللي تبلاني أنا شفت واحد واقف جنب البركي حكيته عربي جاوبني بالتركي نسوان تحكي والأطفال تبكي مع مين نحكي تركي أو ألماني عالقوف مشعل قوف مشعلاني ما نتبلته هو اللي تبلاني.
Il y a quand même aussi des rituels. C'est-à-dire que dans d'une langue à l'autre, on voit d'abord la personne devant sa maison, avant de rentrer progressivement dans la parole. Puis un moment, on voit depuis l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit du dehors, donc tout un rapport intérieur-extérieur, qui touche aussi au cinéma. Dans langue sacrée, langue parlée, on commence sur l'endroit vide où la personne va ensuite nous parler, puis elle est debout chez elle, ce coup-ci, et puis ensuite elle nous parle seulement, mais la parole a déjà commencé, enfin elle nous parle directement. Ça correspond à quoi, dans l'état vieux ?
Donc, d'une langue à l'autre, qui s'appelle en hébreu Misafa Lesafa, qui veut dire d'une langue à une langue. Mais en fait, le mot langue, c'est dit en hébreu la chaune, qui est aussi la langue, mais il s'est dit Safa. Et Safa, c'est la lèvre. Et c'est aussi les bords, voilà, les bords, par exemple, de ma tasse, hein, je peux dire. Donc, Sfat, hein, Kos, hein. Et c'est pour ça que je commence d'une langue à l'autre, au bord de la mer, qui dédie Sfatiam, comme si c'était la lèvre de la mer. La lèvre de la mer sans eux, mais bon, peut-être c'est la lèvre de la mer maternelle, hein, qui parle une autre langue que celle que le film parle. Hein. Et donc on commence au bord de la langue, au bord de la mer. Après, les gens sont sur le seuil de la porte. Le seuil en hébreu, c'est dit Saf. Donc vous attendez qu'il y a Saf dans Safa, le seuil. Il inclut encore, il s'inclut. Donc moi, je l'entends. À la limite, vous pouvez pas le savoir, mais je peux vous assurer que les Israéliens n'ont pas fait attention non plus. Mais ça, c'est ma logique interne. Par quel bout je trouve ma forme, mais la forme, elle envoie encore à la langue, vous voyez ? C'est-à-dire, bon. Et après, les gens sont à l'intérieur. Donc, quand ils sont dehors, c'est comme s'il y a deux matériaux importants. C'est l'extérieur et l'intérieur. L'extérieur, c'est les paysages. L'intérieur, c'est la personne à l'intérieur. Alors, quand la personne de l'intérieur, au début, elle est debout, donc à l'extérieur, et quand on rentre chez elle dedans, l'extérieur, il fait appel à travers les fenêtres. Donc il y a donc comme ça continue à se parler ces deux choses-là, ces deux éléments-là, et qui sont pas anodins parce que si ces gens, si les Juifs sont passés de leur langue, de culture qu'ils ont gardé l'hébreu avec le sionisme. Il y a un mouvement vers la parole. Donc, peut-être en parlant l'hébreu en Israël, on parle. Ça fait partie d'un mouvement c'était une volonté politique, avec laquelle on peut avoir des rapports d'ambivalence. N'importe que la langue et les écrivains, ils produisent dans cette langue. Pour moi, une poésie formidable. Donc, je suis toujours dans l'ambivalence. Je crois que je fais des films toujours dans l'ambivalence. Et on est entre les langues, on est entre mon rapport passionnel à la langue et des critiques que je peux avoir d'une politique, etc., etc. Et je crois que ça vient toujours, et c'est entre la perte et la transmission, parce que bon, on a perdu une partie, il y a une autre. C'est entre la fidélité, la nouveauté, c'est ce qui est toujours la question de l'art. Est-ce qu'on garde fidèle une certaine transmission et comment on renouvelle à l'intérieur de cette fidélité, ou est-ce qu'on fait une révolution, on coupe complètement ce que les sionistes ont voulu faire en voulant créer un homme nouveau, une révolution, en coupant avec tout ce qui était pour eux diasporique, exilique, etc. etc. Évidemment, bon, ils voulaient couper avec tout ça, évidemment ça fait retour, hein. Je parle un peu de ces retours que ça fait. Et le retour, il s'est fait aussi bien dans le premier film des langues maternelles, qui sort à travers l'hébreu, et dans le deuxième, c'est la même situation entre les juifs qui avaient cette langue qu'on blanc parlait, et ils étaient, ces mouvements qui étaient anti-religieux, etc. Donc ils voulaient mettre tout ça de côté. Par exemple, les Talmuds, moi, on n'apprenait pas grand-chose, parce qu'on a vraiment imaginé qu'on est des hommes bibliques. On s'est pensé hommes bibliques, nous. Hein, et que l'histoire exilique de 2000 ans, on ne voulait rien savoir. Donc c'était tellement proche. On parlait d'Abraham, il allait à Beersheba, c'était à côté. Bon, c'est tout ça, on était vraiment dans cette... la Bible était beaucoup plus vivante... pour des raisons et idéologiques, comme dit Chaim Gourou, que c'était un livre de géographie, mais aussi pour des raisons poétiques, c'est-à-dire qu'on peut pas, on résiste mal à la poésie de la Bible, et si on la lit en hébreu, ça, je vous dis, je suis pas sûre combien garde le rythme et la poésie dans la traduction. Mais, voilà... Je ne sais pas, voilà, j'ai tiré comme ça plein de fils. Je ne sais plus lesquels dans lesquels on reprend.
Votre dernier film, en 2008, Langue sacrée, langue parlée, Nourrit à vivre, il débute avec, vous parliez là de Ben Yehuda. Il commence avec les frères Lumière, Freud et Theodor Herzl. Pourquoi ?
Parce que, vraiment, à mon étonnement, les trois mouvements sont nés presque la même année. Le petit film des frères Lumière, c'est 1897. Le premier congrès sioniste qui s'est déroulé en allemand, c'est la même année. Et Freud commence, après la mort de son père en 1996, commence à écrire ses rêves qui vont aboutir au livre qui est l'interprétation des rêves. Et peut-être, justement, ces trois manières différentes de traduire les rêves. Hein. Le cinéma... le sionisme, qui était bon, le rêve de juifs de retour à Sion. Chaque année, ils ont dit l'année prochaine à Jérusalem, sauf que ils ne l'ont pas fait. Ils ne sont pas passés à l'acte, comme dit Freud, et les désirs restaient toujours vivants pour l'année prochaine, Et puis Freud, évidemment, l'interprétation des rêves. Je pense que oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on parle d'une manière différente de... interpréter les rêves. Et on est dans la modernité. On essaye de voir les rêves. On en fait du cinéma. On va ailleurs. On se met sur un divan. On parle dans une langue. On parle dans une autre. Finalement, évidemment, chacun parlera sa langue parce que c'est la partie intime de ses pensées.
Vous avez des envies de fiction ? Comme réalisatrice, Nourrit à vivre.
Non. Si la fiction pour vous c'est inventer une histoire, mais je crois que bon, je veux pas dire que je fais de la fiction dans mes films là, mais c'est pas non plus de documentaire parce que c'est vraiment une composition, une construction qui s'est mise en place d'une manière très bon. Voilà, c'est préparé, c'est travaillé, c'est des va-et-vient tout le temps. Hein. Je crois, oui, c'est en ce moment, et ça, bon, je suis pas prête à lâcher. C'est une sorte d'essai cinématographique, essai dans le sens essayer. Et trouver peut-être une sorte de forme pour que pour le moment, et même si d'un film à l'autre, ça a l'air de se ressembler, et je tiens, parce que je voudrais justement que ça soit un peu, je suis en train de, je lâche pas, hein, de préparer les troisième volet de cette même histoire, qui donnera peut-être une trilogie, mais quand même en gardant les mêmes éléments et en les changeant un tout petit peu, juste un tout petit peu, et que du coup les mêmes éléments ne disent pas la même chose. Ils vont réapparaître, mais ils ne vont pas être dans la même combinaison. Donc voilà, je reste encore dans le même essai.
On en parle finalement, Norita Vif, de ce film en cours, enfin de cette écriture en cours, ou c'est le mauvais œil ?
C'est-à-dire que j'ai toujours un peu peur de parler de quelque chose qui n'a pas encore eu lieu par rapport au mauvais œil que ça peut être, de parler comme la force de la parole sur la réalité.
Mais là, c'est vous qui avez commencé.
C'est moi qui ai commencé. Je me rappelle plus que j'ai commencé, mais soit. Ah oui, c'est ça. Oui, parce que je suis en plein dedans. Quand vous m'avez frappé à ma porte, il fallait que je me sépare douloureusement de la chose que j'étais en train de faire pour vous parler des films précédents, tandis que je suis en plein film prochain. Dieu veut, si Dieu veut, s'il existe ou pas, s'il veut quand même. Et que voilà, oui, que dire, oui, on peut en parler, oui, c'est un troisième volet qui va encore être entre les langues, mais cette fois-ci va être, je dis déjà, vous voyez quand le mauvais œil, je dis ça va être, et si jamais ça va pas être, bon, peut-être un...
On coupera.
Non, peut-être quelqu'un écoute cette émission, il va dire, il faut que ça soit, je ferai pour que ça soit... Et donc, c'est encore de l'hébreu, mais cette fois, on ne va pas parler l'hébreu du tout. C'est les traducteurs de l'hébreu qui vont parler dans leur langue de l'hébreu. Donc, en fait, les langues refoulées dans le premier font surface dans le troisième en parlant de l'hébreu, mais les rapports, les difficultés, la joie, la perte, les deuils, tout ça, en essayant de les passer d'une langue à une autre langue.
Vous avez aussi travaillé sur des formes plus courtes et expérimentales, Norita Vieux.
Oui, je travaille pour cette émission d'Arte qui s'appelle Dinart, dont le réalisateur est Paul Loison. Et vraiment, c'est ce que j'adore à faire. C'est des petits films expérimentaux. Peut-être c'est ce que je préfère à faire. J'exagère un peu, mais pas beaucoup. C'est des petites idées qu'on peut avoir de faire des films qu'on pourra jamais faire ailleurs. Je crois que c'est la seule télé au monde et où on peut le faire. Une émission qui passe à minuit, mais quand même, il y a cette liberté à aller un peu dans des choses beaucoup plus fous et marrants.
אני לא מובן את המילים באיזשהו גיל שעדיין מרטיבים וקיים אבא מתפלל בסמוך מעבר קיר קיים, אני אומר סתם.
Merci beaucoup à tous les intervenants. Les petits bouts de films que vous avez pu entendre étaient extraits de Circoncision, de Vatersland, de Misafa les Safa et de Langue Sacrée, Langue Parlée. Mais vous pouvez aussi retrouver une liste plus complète des films de Norita Vif par l'intermédiaire de notre site internet franceculture.com, tout attaché, tout minuscule. Mais vous pouvez aussi les retrouver grâce au site personnel de Norita Vif, très documenté, noritaviv.free.fr, noritaviv.free.fr. C'était Sur les Docs, passeur de réel Norita Vif, une émission proposée par Joseph Confavreux, attaché d'émission Laure-Hélène Planchet et Christine Gage, prise de son Clément Daté, réalisation Vanessa Nadjar.
אחזר גם אני אך לא עד כדי להמית אהבה שבר מתיקות חומק הכל, ובפה כבר העברית שפה משתרמטת.
Vous pouvez réécouter cette émission, vous pouvez la commenter sur notre site, sur les docs accessibles par le site de France Culture. Et en prime, toute cette semaine, nous vous offrons aussi la transcription écrite de l'interview qui constituait la deuxième partie de ce documentaire, interview de Nourrit Aviv par Joseph Confavreux. Il est 17h. Les nouveaux chemins de la connaissance avec Raphaël Antoven. Bonsoir Raphaël.